Bonsoir. Publication ce mardi du gouvernement Bruno Tshibala. Cette équipe, composée d'une cinquantaine de membres, reprend la plupart des ministres du dernier gouvernement. Parmi les personnalités qui font leur entrée dans cette équipe figurent Lisanga Bonganga, Joseph Kapika, Emery Okundji et Tshibangu Kalala, membres du rassemblement dirigé par Olenga Nkoy. Quelle analyse faire de cette équipe gouvernementale? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois professeur Placide Mabaka. Bonsoir professeur. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Bandundu en RDC et à l'université catholique de Lille en France. Maître Chilka Bongo, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique dénommé Institut professeur Philippe Biyoya. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au centre d'études politiques de l'université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le gouvernement Bruno Tshibala est enfin là. La composition de ce gouvernement a été annoncée ce mardi 9 mai en début d'après-midi dans une ordonnance présidentielle lue à la télévision publique. La nouvelle équipe comprend 3 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 22 ministres et 11 vice-ministres. La plupart des principaux ministres du dernier gouvernement conservent leur portefeuille. Le point avec vous, Askenzi Gatayoro.
Dans ce gouvernement, les 3 vice-premiers ministres sortants sont reconduits. Chez Okitundu garde la diplomatie. Emmanuel Chadari aux affaires intérieures. José Makila reste au transport et voie des communications. Parmi les ministres d'État, Alexis Tambwe Mwamba garde son poste de ministre de la Justice. Pierre Kangoudia maintient aussi son poste au budget. Il en est de même pour Michel Bongongo à la fonction publique. Parmi les ministres d'État à temps, Lisanga Bonganga occupe le ministère de Relations avec le Parlement en remplacement de Bitakwira qui va au développement rural. Le nouveau attrant de la plateforme du premier ministre Tshibala, entre autres Ingele Ifoto, qui va gérer le ministère de l'énergie. Professeur Tshibangu Kalala, nommé ministre délégué auprès du premier ministre, et Emery Okundji, nommé ministre des postes télécommunications et NTIC. Quelques permutations des ministres d'État sont opérées dans ce gouvernement. Par exemple, Jean-Lucien Boussa cède le ministère du plan à Modeste Bahati pour être à la tête du ministère du commerce extérieur. Quelques ministres qui, depuis le gouvernement Madata Mpolo jusqu'à présent, continuent à garder leur poste. Il s'agit de Lambert Mende Omalanga, ministre de la communication et médias, et Martin Kabouloulou, ministre de mines. Sachez que dans ce gouvernement, la majorité présidentielle a gardé presque l'ensemble de ce ministre du gouvernement Sami Badibanga, y compris la société civile et l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre.
Merci Askenzi Gatayoro. Professeur Placide Mabaka, vous êtes professeur de droit public à l'université de Bandundu en RDC et à l'université catholique de Lille en France. Professeur, comment analysez-vous cette équipe gouvernementale?
Bon, cette équipe semble répondre à l'équilibre tant tendu par rapport aux composantes, on va dire, ces différentes plateformes qui composent un peu la sphère politique congolaise. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est une équipe quand même qui est vaste, pléthore. Au regard des difficultés financières que connaît le pays, je pense qu'on va mettre beaucoup d'argent dans la gestion de cette équipe. Je pense que c'est la première des observations qu'on peut faire, c'est la quantité de membres qui composent cette équipe.
Alors, professeur, en attendant qu'on revienne sur les reproches, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif dans cette équipe gouvernementale? Vous avez évoqué l'aspect équilibre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais c'est que il y a la majorité présidentielle. Je dirais que c'est déjà aussi, en quelque sorte, un gouvernement de continuité. On a gardé la plupart des ministres, ce qui permet justement de poursuivre les actions qui ont été engagées dans les 3 derniers mois pour ceux qui y étaient et pour le nouveau de prendre un peu la marche pour atteindre l'objectif qui est fixé à ce gouvernement où les objectifs deux essentiels, c'est bien sûr l'organisation des élections, nous mener aux élections et aussi l'amélioration des conditions de vie des Congolais, notamment la question de la dépréciation du franc par rapport au dollar. Donc, comme certains ministres ou l'essentiel du gouvernement Sami Badibanga a été maintenu, c'est une bonne chose, en ce sens qu'il y aura une continuité dans l'action qui avait déjà été enclenchée. Pour le reste, l'équilibre est trouvé également par rapport au rassemblement, si l'on veut, même si actuellement, il y a une partie du rassemblement qui n'est pas dans ce gouvernement, celui de l'IMETE. Bien entendu, il y a eu pas mal de débats sur cette question pour savoir est-ce que le Premier ministre qui est désigné relève vraiment du rassemblement ou pas. Bon, ça c'est une autre question. Mais est-il qu'il y a un certain équilibre par rapport à l'environnement politique d'un point de vue des partis politiques ou plutôt, je dirais, des différentes plateformes qui composent la vie politique congolaise.
Alors, professeur, est-ce que pour vous venez de le dire, la majorité garde la part du lion. Alors, que va concrètement apporter l'apport l'entrée, j'allais dire, des membres du rassemblement dirigé par Oleng Ankoy? Est-ce un plus? Est-ce positif ou on va stagner?
Je pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'intérêt de la nation congolaise. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de ce que j'ai toujours appelé l'impasse. L'impasse, c'est quoi? C'est que on n'a pas eu des élections à la date prévue et la Constitution n'a pas prévu de mécanisme qui règle cette question de non-organisation des élections dans les temps. Et donc, il a fallu des dialogues, il y a eu deux dialogues, il a fallu trouver des solutions, il y a eu ces deux dialogues. Au premier dialogue, il y a des gens qui avaient contesté, qui n'étaient pas là. Il fallait l'idée d'inclusivité. On vient avec l'accord de la Saint-Sylvestre où on aurait trouvé l'inclusivité. Et au moment justement de finaliser l'arrangement particulier, il y a des dissidences, il y a des discussions. À un moment donné, je pense qu'il faut stopper et voir quel est l'intérêt du peuple congolais, qu'est-ce qui nous sert. Et là, au niveau du rassemblement, c'est une question, me semble-t-il, qui est interne et qui, aujourd'hui, est réglée comme elle l'est. Après, on verra. Mais l'intérêt principal, c'est que ce gouvernement, au-delà de ses composantes, au-delà de ses membres, puisse atteindre l'objectif qui lui est assigné, essentiellement nous amener aux élections et, je répète, régler le problème social, c'est-à-dire la dépréciation du franc et le niveau de vie des Congolais.
Alors, en parlant des élections, il y a cet auditeur Alfred Timothée Kalengai de Lubumbashi qui dit « Avec ce gouvernement, il n'y aura jamais d'élections dans ce pays, étant donné que le Premier ministre Bruno Tshibala ne bénéficie pas de la légitimité internationale. D'où viendra le financement, professeur ?»
Bon, a priori, la question de la légitimité internationale, aucun pays ne doit compter sur une légitimité internationale. Le Congo, pour le répéter, c'est un État, et un État, est qualifié comme État parce qu'il est souverain. Bon, la question du financement, c'est une question qui doit être réglée par le gouvernement, le gouvernement en place et éventuellement, d'après ce que j'avais suivi, un appui de l'extérieur, mais on ne doit pas conditionner justement cette aide extérieure à une légitimité quelconque reconnue au niveau international de ce gouvernement. Sinon, le Congo ne sera plus un État, ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue politique. Il faut accompagner justement le Congo, quand bien même il y aurait des petits problèmes politiques au niveau interne, mais moi je ne discuterai pas de la question de la légitimité du Premier ministre. Il est légitime dans sa nomination, il est légitime parce que c'est un citoyen congolais, il est légitime, c'est qu'on lui demande simplement c'est de réaliser les objectifs pour lesquels il a été nommé.
Alors avant que je ne donne la parole au professeur Félicien Kabamba, très rapidement, professeur Mabaka, ce gouvernement n'a que 6 femmes.
Et ça, c'est le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est que, moi je n'aime pas le terme parité, mais inégalité. C'est-à-dire que dans tous les gouvernements, même au Parlement, dans les institutions, de manière générale, on va dire, les femmes sont sous-représentées. À quoi cela est dû? Peut-être un peu à notre machisme social ou sociétal, mais c'est une question qu'on doit corriger dans l'avenir, justement, parce que la Constitution prévoit déjà le principe de parité et qu'on n'a jamais appliqué, d'ailleurs.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Comment vous analysez cette équipe gouvernementale? Professeur Placide Mabaka, avant vous, disait que cette équipe répondait à l'équilibre tant attendu. Il reprochait le fait qu'il soit pléthorique. C'est un gouvernement de continuité, selon lui. Quelle est votre approche?
En fait, ce gouvernement, quand vous le regardez, vous regardez sa composition, vous rendez compte qu'il reprend un très grand nombre d'anciens ministres. Donc c'est un gouvernement Tshibala, et disons Badibanga, élargi au rassemblement Olingankoy. Beaucoup de ministres que vous retrouvez là sont déjà des anciens ministres du gouvernement Badibanga. Donc, j'ai l'impression qu'on a seulement élargi ce gouvernement au rassemblement Olingankoy. Et évidemment, vous savez que le gouvernement de transition en Afrique et même ailleurs, c'est une stratégie politico-institutionnelle, si vous voulez, une technologie politico-institutionnelle des sorties des crises. Et donc, pour sortir d'une crise politique, il faut donc arriver à institutionnaliser le compromis politique au travers d'un gouvernement de transition. Et donc, cette institutionnalisation du compromis politique ne doit pas être assimilé, si vous voulez, à une sorte de rapport de force. Non. Et le gouvernement, quand vous le regardez, vous vous rendez compte que il y a quand même une dominante majorité. Regardez. Premièrement, les ministères principaux, donc le ministère égalien, je parle là des affaires étrangères, je parle de la défense, je parle des finances, donc tous les ministères égaliens sont restés entre la main de la majorité. Et donc, apparemment, dans les négociations, il m'a semblé que le rapport de force ont joué en faveur de la majorité pour qu'ils maintiennent les ministères égaliens. Vous savez bien le rôle que va jouer le ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections, mais aussi dans la gestion des différentes manifestations et différentes revendications. Eh bien, on peut donc supposer que la majorité a choisi de garder, elle a donc ses raisons pour garder le ministère de l'Intérieur. Vous avez aussi le ministère comme celui de l'information. Quand vous connaissez le rôle de la communication dans un contexte de conjoncture politique, et donc apparemment la majorité a décidé de garder la mainmise sur la communication, parce que quand vous n'avez pas une mainmise sur la communication, eh bien vous pouvez avoir affaire à une communication à laquelle vous ne vous y attendez pas. Et vous avez également le poids, on a vu le poids du rassemblement et le Olingankoy. Quand vous regardez également à travers les ministères occupés, il m'a semblé que ce rôle, contrairement à ce que le collègue a dit, il m'a semblé que ce rôle est quand même assez réduit. Et donc assez réduit, c'est vrai qu'ils ont...
Et donc une marge de manœuvre très réduite.
De mon point de vue, une marge de manœuvre très réduite. Très réduite. Et l'un des problèmes, même quand vous parlez de marge de manœuvre très réduite, il faudra également savoir que l'un des problèmes du gouvernement de transition, il pouvait être Tshibala, il pouvait être Badibanga, il pouvait être n'importe quel gouvernement, c'est qu'en fait, dans la plupart du gouvernement de transition, le rôle, si vous voulez, le pouvoir du chef de l'État, comme on l'a vu vers les années 90, c'était des pouvoirs extrêmement réduits. Et donc, c'était, on prenait beaucoup de pouvoir qu'on donnait au Premier ministre, mais ici nous avons affaire à une transition dans laquelle le chef de pouvoir a conservé l'intégralité de pouvoir, parce qu'on n'a pas touché à la Constitution. Et du coup, le Premier ministre fait la volonté du chef de l'État. C'est ça ce qui est dans la Constitution. Et il m'a semblé donc que dans ce contexte précis, les marges, je parle bien des marges, non pas la marge, mais les marges de manœuvre du Premier ministre sont quand même assez limitées. Tant il est vrai que dans le cas de Bruno Tshibala, il lui sera difficile de s'appuyer sur un appareil politique parce qu'il est début d'Abbesse, et vous connaissez bien dans quel contexte il évolue aujourd'hui vis-à-vis de son appareil politique, il sera très difficile de s'appuyer sur un appareil politique en cas de divergence avec le chef de l'État. Il est donc un Premier ministre, de mon point de vue, assez affaibli.
Alors, à ce sujet, professeur, il y a cet auditeur d'Aylon Molaja de Lubumbashi qui dit c'est une déception pour les dissidents dans la mesure où ils sont tombés dans le filet de la majorité présidentielle, car ils ont les mains liées, quoi qu'ils aient la bonne foi. C'est-à-dire que Bruno Tshibala se retrouve comme étant, entre guillemets, une marionnette de la majorité présidentielle.
Je ne parlerai pas de marionnette, mais il faut quand même reconnaître que sa marge de manœuvre est très très limitée, et que lui-même n'étant pas porté par son appareil politique, je crois que la tâche qu'il attend est quand même une tâche très difficile, et je voudrais bien le voir à l'œuvre.
Alors, professeur, comment vous analysez l'absence dans ce gouvernement des personnalités également qui ont soutenu Bruno Tshibala, tels que Joseph Onengankoy ou Raphaël Katebe-Katoto?
Bon, mais je crois que cela explique également le temps que le gouvernement a mis à sortir. Tout le va-et-vient et tout ça, ça veut dire qu'il y a eu certainement, de mon point de vue, carton rouge du chef de l'État sur tel ou tel autre nom. Mais je n'en connais pas beaucoup, mais on peut déjà supposer que ça n'a pas été facile de faire accepter certaines candidatures de l'opposition.
Alors, il y a également les chefs des partis politiques que certains auditeurs, voire analystes, appellent caciques de la majorité, qui sont restés. Professeur, comment vous comprenez cette option prise par la majorité? Est-ce qu'on peut qualifier ce gouvernement de combat, ce gouvernement de continuité, puisqu'il doit préparer les élections et qu'il fallait garder ses poids lourds?
Alors, regardez bien. Après le départ du G7, après les quelques départs observés au sein de la majorité, il y a eu un resserrement de la majorité autour d'un certain nombre d'acteurs qui se sont dit « nous allons rester aux côtés du chef de l'État ». Et ce n'est pas du jour au lendemain, on les fera partir du gouvernement. Il faut donc que cette équipe qui a accepté, contre vents et marées, de ne pas quitter le bateau, il faudra qu'ils restent. Et ils sont à bord. Et parce qu'ils sont à bord, eh bien, la menace représentée par l'accord, parce qu'il faut dire que si on réduisait la taille du gouvernement, certains d'entre eux se retrouveraient dehors. Et donc, il ne fallait pas réduire la taille du gouvernement parce qu'il fallait que tout ce bon
monde... Il fallait contenter tout le monde.
Absolument. Il fallait que tout ce bon monde soit à bord.
Merci, professeur. Maître Achille Kabongo, vous êtes président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique, dénommé Institut professeur Philippe Bioya. Comment vous analysez cette équipe gouvernementale? Vous avez suivi les professeurs Mabaka et Kabamba.
Oui, très bonne analyse du professeur Mabaka, des professeurs Mabaka et Kabamba. Mais j'aimerais dire une chose que le gouvernement traduit en quelque sorte ce que l'on appelle aujourd'hui le mal congolais. Si vous observez bien, vous voyez que M. Bruno Tshibala est un Premier ministre 10%. Voilà un Premier ministre qui est nommé et qui n'a qu'une capacité de manœuvre de 10% pour pouvoir former une équipe. C'est déjà un problème. On sent qu'il y a un « ça ne va pas ». Ensuite, si l'on doit faire la docte lecture du préambule même de l'ordonnance de nomination, l'ordonnance de nomination fait référence... Vu l'accord global et inclusif, vu l'arrangement particulier du centre interdiocésain. Alors, quand vous analysez, est-ce que l'esprit, l'ordonnance de nomination même du gouvernement, est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il représente l'esprit même de l'accord global et inclusif? Est-ce que cette ordonnance représente également ou traduit l'esprit de cet arrangement particulier du centre interdiocésain? Quand nous analysons de très près, nous trouvons que certains juristes nous disent non, avec qui j'ai longuement discuté. Ils disent même que les textes du départ ont, semble-t-il, été modifiés. Et il y a cette polémique qui est suscitée autour de l'article 5, si je ne m'abuse, où il a été inséré que la nomination du Premier ministre revenait au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État en vertu de l'article 78. Vous voyez, alors quand on fait l'analyse juridique du préambule même, l'on trouve que le préambule pose lui-même problème. De deux, Alain Hironko, l'équipe est trop éléphantesque. Il y a 3 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 35 ministres et 11 vice-ministres.
Il fallait contenter
ça
tout le monde, comme le disait le professeur Félicien Kabamba. Ça fait une équipe
de 60, ça veut dire... On a ajouté encore 3 portefeuilles comparativement, si je ne me trompe pas, au gouvernement Sami Badibanga. Alors, techniquement parlant, j'aimerais dire ceci à Alain Hironko. Quand on compose une équipe gouvernementale, il faut éviter une trop différence de degré entre les ministres eux-mêmes. Regardez, vous avez 3 vice-premiers ministres, vous avez des ministres d'État. Quelle différence y a-t-il, par exemple, entre un ministre d'État et un ministre ? Il y a une différence de degré qui dérive du contenu que l'on assigne aux missions, par exemple, qui sont confiées à un ministre d'État. Donc il y a une différence de degré et de préséance. Mais ce degré, cette préséance doit être précisée dans le contenu des fonctions qu'on lui confère. Ici, on voit que cette équipe, le contenu qui est donné au portefeuille, est un contenu flou et prolixe. Je vous donne un exemple. L'objectif de cette équipe gouvernementale devrait être l'organisation en premier lieu des élections. Mais je ne vois pas ici un portefeuille, par exemple, on en dit, un ministre, par exemple, d'État chargé de l'organisation des élections, ou un ministre délégué près la CENI. Il n'y en a pas. Cela traduit quel esprit ? Ça démontre ici que ce gouvernement ici n'a pas l'intention d'organiser des élections, c'est clair. Il devait y avoir un ministre délégué près la CENI.
Pour suivre de près les questions, l'évolution des questions du processus électoral.
Du processus électoral, un ministre délégué. Il devait y avoir un ministre chargé de la supervision aussi des questions électorales, en collaboration avec la CENI. On ne le voit pas. Mais cette équipe a des portefeuilles à un contenu très prolixe. Et on se demande, avec une telle équipe, il y aura une lourdeur au niveau de l'administration des affaires publiques, une lourdeur au niveau de la gestion même de la chose publique. Et on risque, avec une telle équipe, si elle n'est pas bien contrôlée, de déboucher sur une impasse. Le professeur Kabamba venait de dire que la marge de manœuvre du Premier ministre Tshibala est trop réduite. Et ici, on voit qu'il y a des ministres qui sont très puissants aujourd'hui et qui se sont éternisés au gouvernement, qui ont fait très longtemps au gouvernement. Vous prenez par exemple le cas du ministre de Communication et Média Lambert Mende. Vous prenez le cas du ministre de Justice Alexis Tambwe-Mwamba.
Du ministre des Mines.
Du ministre des Mines Martin Kabwelulu. C'est pratiquement des ministres éternels. Ils ne bougent pas. C'est des ministres très puissants. Et moi, je vois mal comment M. Tshibala, son Excellence, M. le Premier ministre Tshibala, pourrait parvenir à imprimer une autorité sur ses ministres, par exemple. Parce que leur façon de diriger relève aussi des options qui sont déjà levées, maintenues par leur famille politique.
Donc la cohabitation s'annonce très difficile.
La cohabitation s'annonce d'abord très difficile. La machine risque de, gripper. Et je vois que avec cette ministre, l'autorité même du Premier ministre lui-même est trop réduite.
Merci, maître.
Quand on nomme par exemple de vice-premier ministre, c'est pour aider le ministre dans des tâches bien précises qui devaient être par exemple de l'organisation de l'exécution.
Merci, maître.
Et regardez ici. Aujourd'hui, c'est les transports et communications qu'on place en vice-primature. Pourquoi ? C'est pas nécessaire.
Merci, maître. Je reviens à vous. Professeur Placide Mabaka, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est M. Richard Zidikine à partir de Lubumbashi. Après tout ce que le peuple traverse comme misère, nous présenter le gouvernement Badibanga remanié, ça manque de stime au peuple. Dites à nos chers dirigeants de faire le bien même pour une fois. Il n'est jamais tard pour faire le bien. Le franc congolais s'est lamentablement déprécié avec ce gouvernement remanié presque à 90%. L'insécurité a créé, etc. Où va-t-il amener ce Congo vraiment?
Professeur Mabaka.
Alors, donc, mon cher compatriote Richard, la question, justement, je pense, n'est pas de vouloir attaquer ce gouvernement tout de suite, parce que le gouvernement vient d'être nommé, la liste vient d'être publiée. Essayons de voir ce que va faire ce gouvernement. Moi, je pense
on lui accorde
plutôt
le bénéfice du doute.
Exactement. Et ça, c'est ce que bon, on a parlé du mal congolais. J'ai tendance à croire que ici au Congo, rien ne va jamais et rien semble ne jamais aller et rien n'ira. Non, c'est ce que j'appelle le congolo-pessimisme. Je suis pas le seul d'ailleurs. Soyons quand même positifs. Et je ne suis pas un positiviste ou un positif béat ou naïf. Je pense quand même que cette continuité est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça permet, je l'ai dit, à ce qui est une concrétisation des actions qui ont été engagées dans les trois premiers mois. Le gouvernement Sami Badibanga n'a pas duré longtemps. Et les ministres qui y étaient n'ont pas pu vraiment se mettre en action. Donc ce qu'ils ont lancé ne pouvait pas être arrêté non plus du jour au lendemain comme cela. Et le fait que d'autres viennent, un nouveau souple vienne nourrir ce gouvernement, permettra, me semble-t-il, et en tout cas c'est le souhait, de pouvoir atteindre l'objectif, ou les deux grands objectifs qui nous préoccupent. Le premier, c'est amener le Congo à des élections libres, comme on dit, etc. Deuxièmement, c'est améliorer quand même la condition de vie de nos compatriotes.
Mais concernant les élections, vous avez suivi Maître Achille Kabongo se plaindre du fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment de volonté manifestée en mettant par exemple sur pied un ministère chargé de suivre la question du processus électoral.
Mais justement, on ne pouvait pas nommer un ministre qui puisse être chargé des questions de l'organisation des élections. Ce serait juste enfreindre la Constitution. On a la CENI qui est un organe d'appui à la démocratie, un organe indépendant, et en respect du principe de la séparation des pouvoirs, l'exécutif ne peut pas interférer dans l'organisation des élections. Lorsqu'on me dit que le ministère de l'Intérieur, je crois c'est mon collègue le professeur Félicien Kabamba qui l'a dit, le ministère de l'Intérieur n'a pas vocation à organiser des élections. Le ministère de l'Intérieur ne doit que sécuriser, c'est pour l'ordre public, mais ne doit pas interférer dans l'organisation des élections. À partir du moment où le fameux accord, bon, est-ce que c'est une transition ? Oui, peut-être, mais ce n'est pas une transition classique. À partir du moment où l'accord a renvoyé, et bien sûr l'arrangement particulier, à la Constitution, il faut respecter cette Constitution. Et moi, il me semble que l'erreur a été commise à ce niveau-là. Il ne fallait pas renvoyer à la Constitution, il fallait trouver un nouveau cadre qui devait régir cette période qui n'était pas prévue par la Constitution. Mais dès lors qu'on renvoie la Constitution, on doit respecter cette Constitution et en toutes ses dispositions.
Mais professeur, à ce niveau-là, est-ce qu'il ne fallait pas que l'arrangement particulier puisse couvrir cet aspect que vous évoquez ? Mais il me semble, comme l'a dit Maître Achille Kabongo et beaucoup d'autres analystes, que l'esprit et la lettre de l'arrangement particulier tel que conçu au niveau du centre interdiocésain, et c'est lui signé au Parlement la dernière fois, ne soit pas conforme.
Bon, je serai sincère, il y a eu beaucoup de textes qui ont circulé, beaucoup de versions qui ont circulé sur Internet. Je ne sais pas quelle est la version exacte de ce qui avait été signé au centre interdiocésain.
Et au Palais du Peuple.
Au Palais du Peuple, j'ai le texte qui est ici. Simplement, d'après ce que je sais, l'esprit a été respecté. La lettre peut-être a été précisée, je dirais, surtout en ce qui concerne la discrétionnalité de nomination du chef de l'État. Et ça, c'est juste pour mettre une incise sur les prérogatives, les pouvoirs propres du chef de l'État, conformément à l'article 78. Donc, comme j'ai dit, soit on respecte la Constitution, soit on ne respecte pas. On ne peut pas lier le chef de l'État dans des prérogatives qui lui sont propres.
Merci. Merci, professeur. Je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Félicien Kabamba, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert, Bahamé de Bukavu, au sud Kivu. C'est tout à fait normal que la RDC ait un gouvernement à l'instar des autres pays de ce monde. Mais à la lutte politique actuelle, et loin des mois de pessimisme, je ne pense pas que ce nouveau gouvernement, le gouvernement Tshibala, du reste non consensuel, puisse arriver réellement à relever l'un des défis politiques majeurs, à savoir l'organisation matérielle des élections pour mener la RDC vers une véritable alternance politique. La mise en place de ce gouvernement, c'est comme qui dirait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
Voilà, professeur Félicien Kabamba.
Oui, c'est vrai. Je crois que le rôle majeur attribué à ce gouvernement, c'est l'organisation des élections. Quand on dit que le gouvernement reçoit le rôle, la fonction première d'organiser les élections, cela ne veut pas dire que le gouvernement va aller faire les tâches qui sont revolues, qui sont attribuées à la CENI. Il ne s'agit pas de ça. Il faut faire très attention. La CENI est un organe, étant donné que nous avions tous accepté l'idée que la gestion des opérations électorales ne sera plus l'affaire du gouvernement. Il sera l'affaire d'une structure qui va fonctionner de manière indépendante, indépendante du gouvernement. Cela ne veut pas dire qu'on évacue le gouvernement. Parce que organiser les élections implique que le gouvernement soit là, qu'il mette les moyens, qu'il soit dans les renseignements, qu'il sécurise le processus électoral. Et de ce point de vue, le gouvernement a un rôle clé à jouer. Il ne faut pas évacuer le gouvernement dans l'organisation des élections. Pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi on attribue au gouvernement le fait de n'avoir pas organisé le temps des élections? Pourquoi on n'attribue pas ça à la CENI? Et d'ailleurs, vous entendez le président de la CENI dire, eh bien, si moi j'avais tous les moyens, s'il y avait ceci, cela, je refais ce travail. Qu'est-ce que cela veut dire? La responsabilité de la non-organisation des élections, il faut plutôt l'attribuer au gouvernement. Et ça, il faut véritablement mettre le point sur les i. N'est pas dégager le gouvernement de ce qui se passe au niveau de l'organisation des élections. Ça, c'est très important.
Professeur, d'ici la fin de cette année, pensez-vous, le gouvernement est éléphantesque, Maître Kabongo l'a également dit, il faudrait déjà un budget pour son fonctionnement. Pourra-t-on avoir les élections d'ici la fin de cette année?
Alors, là-dessus, nous attendons, moi je n'ai pas l'intention d'anticiper sur cette question, mais nous attendons voir un tout petit peu comment Bruno Tshibala et son gouvernement vont s'y prendre. Je crois que le premier signe, c'est à travers le premier signe, les premières décisions qu'ils vont prendre et comment ils vont donner les moyens. Nous allons donc être très attentifs. Mais il serait quand même assez anticipé aujourd'hui de dire que pour Tshibala, il n'y aura pas d'élections. Non, on lui donne encore un peu de chance, histoire pour voir un peu comment Tshibala va nager pour organiser les élections. Et nous l'attendons. Nous attendons voir le premier signe.
Du point de vue politique, professeur, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, à ce stade, de la formation d'une nouvelle majorité?
Bon, alors, là, vous êtes dans la logique d'un gouvernement de transition. Le gouvernement de transition veut dire qu'on institutionnalise un compromis politique. À partir du moment où on institutionnalise un compromis politique, ça veut dire que tous ces gens forment aujourd'hui un même corps. Il n'y a plus pour eux une opposition, il n'y a plus une majorité. Mais attention, comme le compromis actuel pose un problème, étant donné qu'il n'est pas un compromis, si vous voulez, de tout le monde, il n'est pas inclusif, eh bien, ceux qui sont en dehors du compromis ne seront pas concernés par ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et donc, du point de vue, et c'est là d'ailleurs la grande tricherie de la plupart d'opposants congolais, il est au gouvernement, et il s'est dit opposant. Ah non, quand on entre en gouvernement, on cesse d'être de l'opposition. Mais le jour où on quitte le gouvernement, on va de l'autre côté, en ce moment-là, on va se proclamer opposant. Alors, il y a là une casquette de nos amis de l'opposition qui entre au gouvernement et continue à garder la casquette d'opposant, ce qui est théoriquement une aberration.
Et le manque d'inclusivité, professeur, autour d'inclusivité et de consensus autour de la signature de l'arrangement particulier, visiblement, ça va rester une épine dans le pied du gouvernement Tshibala.
Voilà, ça va rester un problème. Parce que on ne pourra pas dire que ce gouvernement est un gouvernement de compromis de tout le monde, c'est un compromis global. Non, c'est un compromis d'un groupe. Que ce groupe soit large ou quoi, ben, c'est un compromis qui n'est pas un compromis de tout le monde. Et donc, c'est un gouvernement de transition, mais de l'autre côté, il y aura une opposition. Il y aura une opposition de gens qui ne se retrouvent pas et dans le compromis et dans le gouvernement.
Merci, Maître Achille Kabongo. Il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Colésie.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba, en analysant rien que la composition de ce gouvernement, surtout cette présence des dignitaires presque irremplaçables tels que placés aux différents portefeuilles, il est difficile de penser comment le Premier ministre pourra mener la barque et élargir sa marge de manœuvre, si ce n'est de subir les jeux de la majorité. À mon humble avis, le terrain se présente devant lui très miné.
Voilà, professeur Ignace Ndala revient pratiquement dans ce que vous avez dit, mais le professeur Mabaka a souligné que nous devons rester positifs.
Nous devons rester positifs, mais non, il y a un certain pessimisme et une inquiétude. Pourquoi lorsqu'il y a des gens qui s'éternisent trop au gouvernement, j'ai cité ici par exemple Modeste Bahati Lukwebo, Alexis Tambwe Mwamba, Lambert Mende Omalanga, c'est des poids lourds. Et ici, depuis Kolwezi, le professeur Ignace Ndala exprime une inquiétude. Il ne voit pas comment Monsieur, son Excellence
Bruno Tshibala,
le Premier ministre, pourrait parvenir à influencer la façon de travailler, pourrait parvenir à imprimer une certaine direction, une certaine marque sur ces portefeuilles qui sont dirigés par ces poids lourds. Il a une marge de manœuvre très, 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 très réduite. Et ici, on voit tout simplement que c'est la majorité qui domine ce gouvernement et qui le dirige.
Alors, quel est à ce stade-là le poids politique, Maître Achille Kabongo, des certaines personnalités issues du rassemblement Elo Lengenko et qui ont intégré ce gouvernement?
Écoutez, je vous ai parlé du mal congolais, non? C'est le mal que nous avons vécu durant les périodes de transition sous Mobutu. Et qu'est-ce que l'on voit là-bas? Il y a toujours nomination dans les franges de l'opposition qui font dissidence. Et lorsque vous provenez d'une frange de l'opposition qui a fait dissidence, et vous vous faites nommer par la majorité au pouvoir dans un gouvernement, je vous dis, vous êtes comme un tampon en caoutchouc. Vous n'avez pas de marge de manœuvre et vous n'avez pas assez de liberté. Et je pourrais même ajouter, vous êtes dépourvu d'autorité. Parce que vous revenez d'une frange qui a fait dissidence par rapport à un accord, à un compromis politique préalable. Et ici, le professeur Mabaka, comme il le disait, il y a cette polémique autour de cet article 5 du texte de l'arrangement particulier. Certains spécialistes, ils voient qu'on a inséré une disposition qui dit que non, la nomination devrait se référer au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État.
Ce qui ne figurait pas dans l'arrangement
particulier du centre interdiocésain. Certains sont en train même d'aller dire, sont tentés même de dire que les signataires du texte de l'arrangement particulier du Palais du Peuple ont cautionné un faux en écriture. Certains sont tentés de le dire. Vous comprenez? Alors, vous voyez que chaque fois qu'on provient d'une certaine dissidence et que l'on se fasse nommer dans les conditions où l'on se fait nommer, l'on perd l'autorité, l'on perd la liberté de marge de manœuvre, l'on n'a pas de force, on est en quelque sorte des électrons libres. Si vous dérivez d'une composante qui reste unie, vous aurez la force parce que vous êtes soutenu par une certaine base. Mais lorsque vous devenez un électron libre et vous vous faites nommer, vous avez le pouvoir très réduit.
Et Maître Achille Kabongo, brièvement à vous comprendre, la publication du gouvernement Tshibala ne décrispe pas la situation politique actuelle.
Et ça, on doit le dire scientifiquement parlant, il n'y a pas de décrispation. Le professeur Félicien Kabamba, qui est un chercheur comme moi, vous l'a dit. Que dans ce gouvernement, vous avez vu que les postes régaliens, les postes clés sont détenus par la majorité au pouvoir. Vous comprenez? Ceux qui sont entrés au gouvernement ne sont que des transfuges. Je me demande, en donnant l'exemple, par exemple, de M. Lisanga Bonganga, fallait-il faire l'opposition de la MLS à côté de Jean-Pierre Mbemba? Fallait-il faire l'opposition demeurant fidèle à côté de Tshisekedi pendant très longtemps pour accepter accepter dans le gouvernement Tshibala un poste de ministre chargé des relations avec le Parlement.
le poste qu'a occupé l'ancien ministre, le professeur Kinkemulumba. Ce n'est pas possible si on a fait longtemps dans l'opposition pour venir se contenter d'un portefeuille comme celui d'un ministre chargé des relations avec le Parlement. Même pas ministre de l'Intérieur, même pas vice-premier ministre chargé des affaires, vice-premier ministre chargé des affaires étrangères.
Professeur Mabaka,
c'est très grave.
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour décrisper la situation politique actuelle?
Avant de parler de décrispation, moi je pense qu'il faut revenir au terme même ministre. C'est quoi un gouvernement? C'est quoi un ministre? Un ministre, c'est un serviteur de l'État. Et je pense qu'on n'a pas à choisir le poste, si on veut, le ministère dans lequel on doit servir. Le tout, c'est de contribuer à apporter quelque chose pour justement faire avancer la
nation
congolaise, voilà, la nation. Bon, pour décrisper, je pense que la CENCO avait déjà précisé quelles sont les conditions des décrispations, notamment la libération des prisonniers politiques.
Tout ça n'est pas encore suivi d'actes ou d'actions.
A priori, disons, il faut rester un peu prudent. A priori, ça a été respecté, mais il y a quelques cas pour lesquels, dont l'affaire Diomi, Moïse Katumbi, je crois, ou un autre,
il y a encore
pour
des
lesquels
médias qui sont encore
fermés. Ce sont des questions qui ne sont pas, ce sont des prisons, disons, ce seraient des personnes qui auraient été condamnées non pas pour des raisons politiques, mais pour des affaires d'ordre privé. Bien sûr, il y a eu le rapport de la CENCO en ce qui concerne Moïse Katumbi. Bon, ça, il faut laisser voir quelle en sera l'issue. Mais au niveau de la décrispation, quand on parle d'inclusivité, il ne faut pas oublier non plus, il y a un moment, sans pour autant soutenir X ou Y, il y a un moment, il faut prendre des décisions. L'inclusivité ne veut pas dire unanimité.
Et en guise de conclusion, professeur?
En guise de conclusion, si l'on doit suivre, je dirais, les caprices des uns et des autres, je pense que le Congo restera ingouvernable.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, pour vous, la décrispation du climat politique passe par quoi après la nomination du gouvernement Bruno Tshibala?
Il faut une transformation de la violence physique en violence symbolique.
En français facile, c'est-à-dire
À travers une réelle institutionnalisation du compromis. Pour mieux institutionnaliser le compromis, il faut absolument que ce soit un compromis global. C'est de cette manière que l'on peut arriver. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On parlait de l'unanimité ou de... Non, je crois qu'un compromis doit être un compromis de global. C'est de cette manière-là. Vous vous rappellerez d'ailleurs que quand on est allé négocier en Afrique du Sud, on est venu avec un compromis de tout le monde. On a tout fait pour que chacune des fractions, chacun des belligérants appose sa signature. Il fallait trouver. Et d'ailleurs, je crois qu'on a inventé des institutions qui n'ont jamais existé. Quatre vice-présidents, un président, ainsi de suite. Mais toutes ces inventions institutionnelles étaient destinées à quoi? À construire des compromis globaux, des compromis durables et des compromis avec tout le monde. C'est de cette manière, à mon avis, qu'on devait arriver à sortir de la crise. La formule qui a été trouvée, la formule de transition au travers du gouvernement actuel, le gouvernement Tshibala, à mon avis, risque d'être un processus ambigu qui va hypothéquer la sortie des crises. Il fallait absolument des compromis durables, des compromis globaux et des compromis de tout le monde. C'est de cette manière-là, mon point de vue, qu'il fallait. Donc, c'est cette voie qu'il fallait emprunter.
Merci, professeur. Maître Achille Kabongo, pour vous, la décrispation passe par quoi?
Écoutez, la décrispation, c'est un tout. La décrispation passe nécessairement, je l'ai toujours dit, par l'application de la résolution 2348. Et ici, le gouvernement a une mission d'organiser les élections. On devrait orienter les portefeuilles du gouvernement spécialement conformément à cette mission-là pour éviter au gouvernement d'éluder la question de l'organisation des élections. Et quand j'ai dit ici qu'il fallait des portefeuilles de ministres délégués près la CENI, cela ne veut pas dire que le gouvernement, dans le contenu du fonctionnement de ses portefeuilles, devrait s'approprier les prérogatives de la CENI. Mais un mécanisme tout simplement de suivi, parce que c'est ça l'objectif, et on devait réduire la taille du gouvernement.
Merci.
15 000 ministre suffisait au lieu de 60.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.